France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous reviendrons sur les conséquences de l'annonce du gel des programmes et des financements de l'USAID, cette agence américaine qui est l'un des plus grands acteurs du financement de l'aide humanitaire et de développement dans le monde. De l'Ukraine au Moyen-Orient en passant par l'Afrique de l'Est, les ONG témoignent de programmes mis à l'arrêt brutalement et alertent sur les risques sanitaires, sociaux et autres qui pourraient en découler. Quel avenir pour l'humanitaire sans les financements de cette agence? Nous en discuterons avec nos invités. François Grunewald, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes chercheur senior et président honoraire veille et anticipation du groupe URD, Urgence Réhabilitation Développement, qui est un think tank spécialisé dans les questions de l'aide internationale. Et à vos côtés, Vincent Pradier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes doctorant à l'IAE, à l'Université Paris-Sorbonne, et vous avez travaillé pendant un certain temps à Coordination Sud, qui est une grande plateforme également d'ONG. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, eh bien, place au retour de terrain. Bonjour Cédric Gras.
Bonjour.
Écrivain et géographe, voilà près de 20 ans que vous arpentez les territoires de la Russie, de la Chine et de l'Asie centrale, une vaste région aux contrées inhospitalières et marginalisées à laquelle vous avez consacré de nombreux livres. On citera Les alpinistes de Staline chez Stock, pour lequel vous avez reçu le prix Albert Londres en 2020. Votre dernier voyage a pour point de départ la mer d'Aral, située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, une mer intérieure dont les dimensions atteignaient près de 70 000 km² dans les années 60 et dont il ne reste aujourd'hui qu'une toute petite surface. Des vallées de sable et de sel, des épaves de navires rouillés ont remplacé la mer et les ports de pêche. Et vous avez décidé, Cédric Gras, de remonter le cours des deux grands fleuves qui alimentaient autrefois la mer d'Aral pour comprendre comment et pourquoi elle avait disparu. Et c'est ce voyage que vous racontez dans l'ouvrage qui vient de paraître, « Les routes de la soif » chez Stock, et dans deux documentaires réalisés avec Christophe Rella, aux sources de la mer d'Aral diffusées sur Arte. Et puisque nous ne pouvions remonter ce matin le cours des deux grands fleuves, eh bien c'est celui de l'Amou Daria que nous emprunterons ensemble. Est-ce que vous pouvez commencer, Cédric Gras, par nous décrire la fantomatique mer d'Aral? À quoi ressemble cet espace laissé par les eaux qui ont disparu?
Oui, la mer d'Aral aujourd'hui, c'est devenu un désert. D'ailleurs, les Ouzbeks ne disent plus mer d'Aral, ils disent désert d'Aral, Aral Koum, en ouzbek ou en Karakalpak. La mer d'Aral se situe dans une petite république autonome qui s'appelle le Karakalpakstan, mais ça reste dans l'Ouzbékistan, on va faire simple. Donc c'est les anciens fonds marins, en fait. Hein. La mer d'Aral était très peu profonde. En réalité, c'était pas une mer, c'était un lac salé. C'est ce qu'on appelle l'endoréisme en géographie, c'est-à-dire que les cours d'eau, le fleuve Amou Daria, en l'occurrence, et tous les affluents qu'il rassemble, eh bien, ne peuvent pas se jeter dans une mer ouverte, dans un océan ouvert. Donc ils viennent combler une dépression, une cuvette au milieu du continent. C'est ce qui avait donné la mer d'Aral. Mais maintenant que le fleuve se tarit, il n'y a plus assez d'eau qui arrive, il n'y en a plus du tout même, hein, qui arrive dans cette ancienne cuvette. Et donc la dernière nappe d'eau aujourd'hui, elle se trouve à peu près 100 km du bout du fleuve. Donc elle s'évapore. Et je sais pas combien d'années ça va prendre encore, mais il reste 10% à peu près seulement de l'eau, par rapport aux années 60, par exemple.
Alors, il y a cette image que j'évoquais en introduction et que vous filmez longuement et qui est absolument frappante, c'est celle des navires rouillés qui sont échoués sur ce qui était donc les fonds marins qui sont aujourd'hui un désert. On voit des chameaux, des dromadaires qui se mettent à l'ombre de ces navires, le peu d'ombre qu'ils peuvent offrir. Ils sont complètement rouillés. Ils datent de l'époque soviétique?
Oui, bien sûr. Mais c'est un peu une image d'Épinal, un petit peu maintenant, de la mer d'Aral. Mais il faut savoir que ces bateaux, il y en a très peu maintenant, parce qu'ils ont été désossés, les gens localement sont allés revendre tout ça à la ferraille quand c'était pas trop rouillé, et donc les autorités, côté ouzbek par exemple, ont rassemblé quelques navires, il n'y en a plus une poignée hein, maintenant, il y en a 6-7 dans un espèce de petit cimetière marin, quoi, qui est devenu un haut lieu de Moïnak, où viennent les quelques touristes qui arrivent jusque-là, et puis nous, quand on est venu, par exemple, il y avait un mariage, c'est devenu un haut lieu de Moïnak, c'est un drame, et en même temps, c'est l'endroit où on vient pour les événements heureux. C'est devenu une attraction, et voilà. Et puis c'est... la mer d'Aral, encore une fois, était très peu profonde, donc le point de vue est pas très haut, mais c'est sur une ancienne petite falaise, et on domine eh bien, ce qui est devenu non plus un horizon bleu, mais un champ ocre, jaune, à perte de vue, quoi. Et c'est là qu'on a mis ces petits bateaux, il y avait un ancien phare aussi, voilà.
Alors c'est un endroit étrange qui aiguise la curiosité du voyageur, mais pour les habitants c'est un lieu de drame puisque la disparition de la mer d'Aral est assez récente de mémoire d'habitants. Évidemment, elle est encore dans les esprits. Les plus anciens, et vous en rencontrez, se souviennent parfaitement de l'époque où il y avait encore un port et une intense activité de pêche.
Mon père, le père de mon père et tous mes ancêtres étaient pêcheurs. J'ai commencé à pêcher à l'âge de 14 ans avec mon père. Nous étions 4 personnes à bord. À cette époque, il y avait beaucoup de poissons. Nous pouvions partir pêcher 15 jours ou un mois. Ensuite, nous avions un mois de repos.
Quand nous nous sommes mariés, le niveau de l'eau était très élevé.
Nous nous sommes mariés en 1971.
Et il y avait beaucoup de poissons. Nous avions installé une yourte à cet endroit. Ici, il y avait de l'eau partout. Il y avait un port où beaucoup de bateaux allaient et venaient. C'était le bon temps. Après, on n'a plus eu d'eau, seulement du sable.
Ali, un ancien pêcheur, et sa femme, aujourd'hui, tout autour de leur maison, tout est désertique. Cédric Gras.
Oui, bah, Ali, bon, lui, il était mousse, en fait, quand il était jeune. Il n'a pas été longtemps pêcheur, parce que malheureusement, la mer s'est retirée très, très vite et les bateaux se sont échoués. Et on est allé chez lui, chez eux. Sa femme nous a accueillis très sympathiquement. Et c'est vrai qu'il nous expliquait qu'avant, ils étaient à un pâté de maison de la mer, quoi. Ils étaient sur le front de mer et maintenant, il n'y a plus rien. Moïnak, c'était même presque une petite presqu'île qui était entourée par les eaux. Et aujourd'hui, vous êtes entouré par le sable ou la pirogue. Alors, le gouvernement ouzbek essaye de planter une plante qu'on appelle les saksaoul, qui a la particularité, c'est une plante endémique qui veut bien vivre dans ce qui ressemble quand même à un enfer climatique et minéral, et qui pourrait aider à fixer les sols, parce que malheureusement, se sont déposés sur les fonds de la mer d'Aral énormément de défoliants, de pesticides, enfin tout ce qu'a pu charrier le fleuve à l'époque, puisqu'on en parlera j'imagine après, ce fleuve a été épuisé par notamment la monoculture du coton ou du riz, et quand il y a des tempêtes qui viennent remuer un peu le sable de la mer d'Aral. Ça a des conséquences sanitaires pour les populations qui sont restées sur les bords de la mer d'Aral.
Alors parlons-en justement, ce fleuve traverse une partie de l'Ouzbékistan où l'on cultive, vous l'avez dit, le coton le long de ses rives. C'est une culture qui demande beaucoup, beaucoup d'eau et ça paraît insensé dans cette région où, vous le rappelez régulièrement dans le documentaire, il ne pleut presque pas.
Il pleut très peu. Je pense qu'à Rennes, là, il y a 15 jours, il a plu... l'équivalent de 10 ans de précipitation en une semaine pour l'Asie centrale. C'est-à-dire que en Asie centrale, on a en gros des plaines désertiques et au Tadjikistan, des montagnes qui pourvoient en eau grâce à des glaciers. Les précipitations n'ont lieu qu'en montagne sous forme de neige qui se transforme en glace, qui ensuite fond pour permettre dans les déserts d'irriguer et de cultiver notamment le coton. C'est une culture qui est très très vieille en Asie centrale, le coton. Mais à l'époque soviétique, on en a fait quelque chose d'industriel, tout simplement. Et ça a fini par épuiser le fleuve Amoudaria par la multiplication des canaux d'irrigation. On a étendu la surface de ce qu'on appelle des oasis, en fait, en colonisant le désert grâce à un arrosage inconséquent et à des méthodes en plus d'irrigation qui aujourd'hui ne sont plus utilisées. Par exemple, les Ouzbeks essayent de développer le goutte-à-goutte, histoire d'économiser l'eau au maximum.
Alors ça, c'est un projet, et certains vous l'évoquent, mais les techniques qui sont encore utilisées, qu'on vous décrive, qui sont impressionnantes, c'est qu'il s'agit d'inonder littéralement les champs.
C'est ça.
10 cm d'eau sur un champ pour que ce soit efficace.
Ouais.
Ça représente 4000 mètres cubes d'eau par hectare. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience des limites de cette incroyable consommation en eau que demande le coton?
Bien sûr qu'il y a une prise de conscience, les Ouzbeks savent pertinemment, les Turkmènes aussi, les Tadjiks aussi qui font du coton un peu en amont. On met en eau, c'était la technique d'agriculture soviétique. L'idée, c'est surtout maintenant de faire reculer les surfaces en coton, mais c'est compliqué parce que le coton, ça rapporte de l'argent plus que les choux, les carottes, les cultures maraîchères, je sais pas. Et puis c'est aussi, il y a aussi un enjeu social, de main-d'œuvre, d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petites mains, des ramasseuses de coton qui viennent œuvrer dans les champs à l'automne. Il y a plusieurs récoltes du coton, il y en a deux voire trois, donc il y a cette économie qui s'est mise en place à l'époque soviétique, et faire reculer ça, c'est assez compliqué, d'autant que l'Ouzbékistan a connu une explosion démographique depuis la chute de l'URSS. En gros, ils ont multiplié leur population par deux pratiquement depuis 1991,
et donc ils sont dépendants de ces cultures.
Ils sont dépendants, ça représente une part non négligeable du PIB de l'Ouzbékistan, évidemment, et puis localement, c'est le seul emploi de beaucoup de gens encore. Alors avec le tarissement du fleuve, puisque la Moudaria apporte de moins en moins d'eau, notamment en aval, il est probable que par manque d'eau, ça reculera naturellement.
Dans les images d'archives que vous diffusez de l'époque soviétique, on voit ces impressionnantes récoltes de coton, mais vous l'avez dit, elles préexistaient avant, mais il y a eu une industrialisation à marche forcée. Est-ce que les récoltes sont aussi, les tas de coton sont aussi, ceux que vous avez vus sont aussi gros, aussi gigantesques que ceux de l'époque soviétique?
Ça ressemble à des grosses barbes à papa. Nous, on est allés s'allonger là-dedans avec les ouvriers de l'ancien kolkhoz. Aujourd'hui, c'est plus des kolkhoz qui sont chargés de former ces tas avant que ça parte à l'étape du tissage. Et c'est une fierté aussi nationale. C'est devenu presque une tradition. Oui, les récoltes sont pratiquement aussi conséquentes qu'avant. Alors, il n'y a pas que le coton. Il y a aussi quelque chose qu'on sait moins, c'est le riz, par exemple. Et ça, c'est assez impressionnant de voir les rizières en plein désert. Pareil, avec une mise en eau sur plusieurs centimètres, une évaporation très, très, très forte. Et c'est aussi lié à des traditions culinaires. C'est-à-dire, en Asie centrale, on mange un plat qui s'appelle le plof, qui est à base de riz, et les gens veulent notamment la variété de riz du Khwarezm, qui est la région de l'aval, de la région de Khiva, qui est pas très connue, mais on connaît parfois la cité de Khiva, qui est un des joyaux d'art islamique de l'Ouzbékistan. Et il y a évidemment un attachement aussi très fort à ces cultures et à ces traditions.
Cédric Gras, en amont, la Moudaria suit la frontière avec le Turkménistan, qui prélève lui aussi sa part des eaux via un canal dont la construction a été décidée à l'époque par Staline. Il s'appelle le canal de Karakoum, c'est l'un des plus longs du monde. Pour quelles raisons a-t-il été construit, et est-ce qu'on a une idée des quantités d'eau qui sont prélevées par le Turkménistan via ce canal?
Au début, il devait même s'appeler le canal du grand Staline. Et puis finalement, Staline est mort, et c'est Khrouchtchev qui a achevé, en changeant d'ailleurs un petit peu le tracé, cet énorme canal. Alors le Turkménistan, c'est un pays qu'on connaît très peu, qui est très fermé, qui est dirigé par une dictature assez sévère, et qui est un désert. C'est-à-dire que ce désert s'appelle le Karakoum, et le Turkménistan, c'est pratiquement le désert du Karakoum, en fait. Il était peuplé par des nomades, les Turkmènes étaient des nomades, et à partir du moment où les Soviétiques arrivent, veulent sédentariser, développer une économie, ils veulent aussi initier une agriculture sédentaire, donc ils créent cet énorme canal à travers le désert qui pompe à peu près 40% voire plus de la Moudaria à l'endroit de la prise d'eau, et ce canal rejoint notamment la capitale Ashgabat, qui est à 800 km du fleuve en plein désert. C'est un canal en plus qui est à même le sable, c'est-à-dire il y a beaucoup d'infiltration en plus de l'évaporation, et puis dans les années 80, ce canal a même été prolongé jusqu'à la Caspienne, et aujourd'hui il est plus long que le Rhin. Bon, il n'est pas navigable comme l'aurait souhaité Staline, mais c'est un canal qui est absolument vital pour le Turkménistan. Ça représente plus de 90-95% même des apports en eau du pays. C'est-à-dire que sans le canal du Karakoum, il n'y a pas de Turkménistan aujourd'hui, enfin pas tel qu'on le connaît actuellement.
Et vous le disiez, c'est un pays très difficile d'accès, mais vous avez pu vous rendre à Ashgabat, la capitale. Quelques mots sur cette ville qu'on surnomme la ville de marbre blanc et qui est si inaccessible qu'on va profiter du fait que vous ayez pu vous y rendre pour que vous nous en disiez un petit peu mot, même si on s'éloigne un peu du fleuve.
Mais on s'éloigne du fleuve, oui et non, parce que en fait, les eaux du fleuve, les gens d'ailleurs là-bas ne disent pas le canal de Karakoum, ils disent le Karakoum Daria. Comme la Moudaria. Daria en persan, ça veut dire le fleuve. Et c'est-à-dire que les jeunes, par exemple, ont toujours connu ce canal. Pour eux, c'est presque une rivière naturelle. Et comme il n'y aurait pas de Turkménistan et d'économie de capitale telle qu'on la connaît sans ce canal, finalement, pour eux, c'est une dérivation qui a été créée par l'homme, mais qui est devenue, enfin, qui fait partie du paysage, quoi. Astana, c'est le Kazakhstan. Ashgabat, pardon. c'est la capitale qui a sans doute, c'est le plus métamorphosé depuis la chute de l'URSS parmi ces ex-républiques soviétiques, parce que au Turkménistan, il y a du gaz, et puis il y a eu toute une série de dictateurs un peu fantasques, notamment le Turkmenbashi, dont on parlait beaucoup dans les années 90, et qui a, en gros, rasé la vieille ville soviétique pour enchaîner des projets architecturaux plus ou moins délirants, un grand renfort de gaz au dollar, beaucoup de blanc, c'est son obsession, du marbre blanc, des dorures, et par exemple, aujourd'hui, à Ashgabat, si votre voiture n'est pas blanche, vous ne pouvez pas rentrer dans la capitale.
Pour ne pas contraster avec les grands bâtiments de marbre blanc.
Un effet d'ensemble, ça fait partie de ces... je ne sais pas comment il faut appeler ça, de ces caprices des dictatoriaux. Mais il s'était fait construire notamment une statue de lui-même qui tournait avec la course du soleil dans la journée. Alors là, ses successeurs ont déplacé la statue et ont arrêté le mécanisme. Il ne tourne plus avec la course du soleil. Mais la statue est quand même là. Et par ailleurs, le successeur Berdimuhamedov s'est fait lui construire une grande statue de lui-même sur un cheval doré. Et là, c'est son fils maintenant qui est au pouvoir. Le père, c'est... a initié un Sénat qui n'existait pas auparavant et dont il a pris la tête, évidemment. Donc c'est devenu un peu népotique. C'est la famille Berdimuhamedov aujourd'hui qui est à la tête du Turkménistan. Il n'empêche qu'ils ont toujours besoin de ce canal du Karakoum, dont il faudra un jour enclencher la rénovation.
Ah, un canal vital, vous le disiez, pour le Turkménistan qui est un désert. Et cela crée des tensions avec les autres pays que le fleuve traverse, notamment l'Ouzbékistan, puisque les eaux qu'ils reçoivent ont été amputées, vous le disiez, d'une grande part, peut-être 40% du débit du fleuve. On remonte encore, Cédric Gras, le cours du fleuve, on arrive en Afghanistan, la Moudaria, alors pas en Afghanistan, mais le long de l'Afghanistan, la Moudaria longe la frontière entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, et c'est une frontière très particulière parce qu'elle est complètement fermée. Ici, les habitants ne peuvent même pas s'approcher des rives du fleuve.
Non, quand vous allez à Termez, qui fait face à l'Afghanistan, côté ouzbek, c'est barbelé, c'est des rondes de gardes frontières, et les enfants des villages à côté, les gamins, ne peuvent pas aller...
Pour quelle raison ?
Parce que l'Ouzbékistan a peur, évidemment, d'infiltration de ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan, a peur de l'influence de l'islamisme radical sur son territoire. C'est des raisons de sécuritaires essentiellement. De toute façon, ils prennent l'eau dans la Moudaria, et donc vous avez des retenues un petit peu dans l'arrière-pays qui permettent aux gens de vivre, de cultiver, etc.
C'est très grave, vous arrivez enfin au Tadj. Vous entreprenez une expédition sur le Fetchenko, c'est un glacier que l'on considère comme la principale source du fleuve de la Moudaria et donc de la mer d'Aral à plus de 2000 km de là. Sur ce glacier, à 4000 mètres d'altitude, se trouve une ancienne station scientifique, la station Gorbunov.
C'est la première fois que je viens ici. Et l'ambiance ici est magique. Nous imaginons comment il vivait un an ici.
On peut imaginer que dans les années 30, les gens ont fabriqué tout ça, en transportant tout à dos de chameaux et de yaks. Et tout ça a été réalisé pour la science. Dans les années 30, il n'y avait aucune raison de venir ici. C'était juste pour la science. Mais maintenant, nous ne faisons plus ce genre de choses.
Moi, je rêvais du Fetchenko. J'avais vu une fois cette station à la télévision, et si Dieu le veut, je rêvais de venir un jour ici.
Vos compagnons d'expédition tadjiks semblent très émus de découvrir ce lieu, cette station scientifique à 4000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça représente pour eux ?
Eux, ils connaissent de nom ce glacier, ils en apprennent le nom à l'école, et ils savent que leur pays est le château d'eau de l'Asie centrale. À 80%, les glaciers tadjiks pourvoient en eau le bassin de la Moudaria, et donc permettent aux Ouzbeks, aux Turkmènes, aux Afghans, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que les talibans aujourd'hui sont en train de construire un énième canal de détournement qui va aggraver la situation. Et ces glaciers, ils sont fondamentaux, et puis c'est un deuxième souci maintenant. C'est-à-dire que vous avez déjà une sursollicitation du fleuve, vous avez déjà un tarissement du fleuve, et en plus, il y a la fonte des glaces qui menace en amont, sachant que c'est assez trompeur, parce que quand un glacier commence à fondre, il donne plus d'eau dans un premier temps. Et c'est vrai que ça fait un décalage d'un certain nombre d'années avant qu'on passe à la baisse, un seuil en deçà duquel le potentiel de fonte, lui aussi, va baisser drastiquement. Donc, les Soviétiques, dès les années 30, avaient une vue d'ensemble, puisque c'était l'URSS, pour eux, tous ces pays étaient un seul territoire. Ils avaient compris que le Fetchenko, qui est le plus long glacier de montagne du monde, qui se trouve au Tadjikistan, qu'on ne connaît pas bien, ils avaient compris que ce glacier, c'était les sources de la Moudaria et qu'il fallait évidemment l'étudier.
Merci infiniment Cédric Gras. Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d'Aral est paru chez Stock, et les deux documentaires réalisés avec Christophe Relat sur la Moudaria dont on vient de parler et sur le Sir Daria qui est à découvrir sont accessibles sur Arte. Un petit mot pour vous dire qu'on apprenait cette semaine la fermeture de Radio Begum, une radio indépendante en Afghanistan faite par des femmes et pour des femmes qui diffusaient notamment des programmes scolaires. La journaliste Solène Chalvion-Suriti a consacré un excellent documentaire Radio Begum, la voix des résistantes, et elle était venue nous en parler dans le retour de terrain. Nous ferons des liens pour en savoir plus sur cette incroyable radio qui va cesser d'émettre. La chanteuse et actrice ouzbek Shahzoda avec ce titre Hayati sorti en 2019, et c'est avec elle qu'on quitte les plaines de l'Asie centrale, direction les États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Je suis le directeur par intérim de l'USAID. J'ai délégué cette autorité à quelqu'un, mais je reste en contact avec lui. Notre objectif était d'aligner notre aide étrangère sur les intérêts nationaux. L'USAID a toujours ignoré cela et a décidé qu'elle était en quelque sorte une organisation caritative mondiale distincte de l'intérêt national. Il s'agit de l'argent des contribuables, et je suis très troublé par ces rapports selon lesquels ils n'ont pas voulu coopérer avec des personnes qui posent des questions simples sur ce que fait ce programme, qui reçoit l'argent, qui sont nos contribuables, qui est financé. Ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux.
C'est désormais le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, autrement dit le chef de la diplomatie américaine, qui dirige l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Cette agence fédérale, qui est l'un des principaux financeurs de la solidarité internationale, vient de subir les foudres du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, dirigé par Elon Musk. Licenciement, suspension du site internet, gel des programmes. L'agence, qui emploie 10 000 personnes, est gérait un budget de 42,8 milliards de dollars et désormais sous tutelle et toute dépense hors aide humanitaire d'urgence est suspendue pour une durée de 90 jours. Partout dans le monde, les ONG alertent sur les risques sociaux, sanitaires, sécuritaires et tout simplement en termes de vie humaine que représente un désengagement de l'USAID. Pourquoi cette mise au pas? Quelles conséquences sur le terrain? Quelles alternatives? On en discute avec nos invités François Grunewald et Vincent Pradier. Et on commence avec l'édito de Marc Sémo.
Merci Mélanie. Alors l'USAID incarne en effet tout ce qu'exècre Donald Trump et ses séides. C'est une organisation criminelle irresponsable, un nid de vipères marxistes radicaux qui déteste l'Amérique, acclamé Elon Musk, qui est chargé des coupes à la hache dans les services publics. Sans surprise, cette agence fédérale, fondée en 1961 par Kennedy, était l'une des premières sur la liste. Alors bien sûr, c'est un sérieux coup au pouvoir d'influence des États-Unis dans le monde, l'USAID, et la première pourvoyeuse d'aide humanitaire, agissant dans 158 pays pour un budget annuel de quelques 50 milliards de dollars. Ce qu'il en reste après cette purge massive passe sous la coupe du secrétaire d'État, comme tu disais, Marco Rubio, et le nouveau patron de la diplomatie américaine a clairement mis les points sur les i. Chaque dollar dépensé, chaque programme financé, chaque politique mise en œuvre doit répondre à trois questions simples. Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte? Est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre? Est-ce que cela rend l'Amérique plus prospère? C'est la quintessence de l'unilatéralisme de la politique étrangère trumpienne. Son slogan de campagne « America first » signifie à la fois l'Amérique d'abord, mais aussi l'Amérique, première puissance au monde et seule prime ses intérêts. Le prestige américain dans le monde risque d'être écorné avec de telles coupes claires dans les programmes d'aide à l'international, mais ces mesures ne peuvent que réjouir l'électorat trumpiste. Or, c'était l'objectif du 47e président qui veut montrer qu'il veut faire fort et qu'il veut faire vite face et mettre en œuvre ce qu'il a promis. Sur beaucoup de dossiers, comme par exemple sa remise en cause du droit du sol, il est bloqué par la justice. S'en prendre à l'USAID, c'est facile, mais symboliquement fort. C'est ce qu'aiment les leaders autoritaires populistes.
Merci beaucoup Marc Sémo. Il faut peut-être rappeler qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les décisions qui ont été prises, notamment parce qu'il va y avoir quelques mesures d'exemption dont la liste a déjà été un peu rallongée, mais demeure assez floue sur les critères. Néanmoins, François Grunewald, est-ce que vous pouvez nous aider à prendre la mesure de ce que ça représente pour le milieu de l'aide internationale au sens large, humanitaire, développement, que le gel, même si c'est un gel pour l'instant, des programmes de l'USAID?
Alors, d'abord, je pense que c'est intéressant de remettre un petit peu de politique dans tout ça, en se rappelant qu'en effet, quand l'USAID a été créé, ça a d'abord été créé comme un outil clé de la politique américaine pendant la guerre froide. Donc, c'était le moment où l'aide américaine sur le Vietnam, sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, jouait un rôle très important de promotion de l'Occident démocratique face au bloc de l'Est. Et donc, c'était essentiellement, pour reprendre les questions de Amérique plus sûre et Amérique plus... C'était complètement ça. C'était le monde occidental devant être plus fort grâce à sa générosité, à ses politiques de soutien économique, de soutien à la démocratie, etc. Donc, c'est un peu une aberration. Ce que dit Trump, c'est un peu une aberration. Ça, quand la guerre froide s'est terminée, l'USAID a commencé à se changer, à évoluer et à renforcer tout ce qui était, là encore, les actions de type soutien à la démocratie, soutien aux évolutions des pays qui sortaient de cette guerre froide. Et puis, à côté de ça, il y avait en effet cet énorme bloc d'aide humanitaire qui avait été créé par Carter avec OFDA, le Office for Foreign Disaster Agency Relief, qui était vraiment une énorme mécanique de soutien aux pays aux populations dans les pays en conflit, aux populations dans les pays dans là où il y avait des désastres. Et donc c'était en effet devenu un pilier de l'aide humanitaire mondiale. 8 milliards, l'Union européenne et les États membres, c'est environ 2-3 milliards. Donc c'est vraiment, il y avait une vraie différence. Donc couper l'aide humanitaire telle qu'elle est, la gelée. Moi, j'avais encore des coups de téléphone hier de collègues avec qui je travaille en Ukraine. On est dans le moment le plus froid de l'hiver et l'USAID avait promis sur Kharkiv, sur Soumy, sur Mykolaïev, des générateurs, des transformateurs. Tout ça est bloqué. Donc c'est vraiment désastreux. Et peut-être se rappeler que dans ce que vise Trump, il y a des éléments très clés de son approche politique en interne. Quand Obama avait été devenu président, il avait introduit toute une série de réformes sur l'environnement, il avait rajouté les questions de genre, le soutien aux groupes sur les inclusions LGBT, etc. Il avait vraiment fait un gros travail là-dessus. Et ça, c'est ce que Trump exècre. Et donc, en visant ces programmes humanitaires et ces programmes de développement sur ces populations particulières et sur ces sujets particuliers, en quittant l'OMS, en quittant bientôt l'accord de Paris sur le climat, en quittant sûrement bientôt l'UNESCO, il va couper tout ce qui permettait justement à cette multitude de points d'entrée qui avaient été amenés par Obama de disparaître, quoi.
L'USAID, les coupes qui lui sont imposées, les gels, voire les menaces de suppression se font, comme vous le dites, au nom d'une idéologie supposée que défendrait l'USAID qui serait contraire au Make America Great Again, avant d'essayer de comprendre le fondement de ces accusations. Vincent Pradi, est-ce que vous aussi, vous pouvez nous donner l'écho que vous avez de ce milieu des ONG internationales que vous connaissez bien? Est-ce que vous aussi, on vous fait remonter de l'Ukraine ou d'ailleurs des inquiétudes, et comment est-ce qu'elles sont formulées?
Oui, tout à fait. Alors, François a bien fait de rappeler que l'aide au développement a toujours un peu trois dimensions. Une dimension de solidarité, de rétribution, de siècles de pillage des ressources de pays anciennement colonisés. Une dimension d'influence économique et puis une dimension d'influence culturelle avec l'enjeu de diffuser un modèle particulier, démocratique, certaines valeurs, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, il y a certaines dimensions de l'aide qui sont plutôt portées que d'autres par certains gouvernements. En fait, ce qui se passe aux États-Unis est révélateur d'un moment plus global à l'international de suspension, diminution, retrait d'un certain nombre de politiques d'aide au développement. Donc, en fait, alors, c'est très impactant parce que je pourrais donner quelques chiffres. Effectivement, l'aide américaine fait partie des plus grosses contributions d'aide au développement et d'aide humanitaire. Donc, ça va avoir un impact direct sur les ONG. Mais en fait, on constate ce rétrécissement, cette réduction de l'aide au développement un peu partout, en France, en Europe. Et donc, il y a globalement, effectivement, dans les ONG internationales, en particulier d'aide humanitaire, qui sont... Quand on regarde les ONG françaises, par exemple, elles sont à 80% quasiment financées par de l'aide internationale publique, notamment humanitaire. Ça veut dire qu'une suspension de cette aide-ci va avoir des effets très directs sur leur capacité d'agir, un certain nombre d'actions qu'elles mènent, et puis, in fine, sur les personnes, les vulnérabilités auxquelles elles font face et les personnes qu'elles secourent sur plein de programmes.
C'est important de préciser ce point-là, cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'il y avait un effet de ruissellement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de l'aide. L'USAID était un financeur, un financeur qui pouvait avoir des programmes d'action directs sur le terrain, mais aussi des financements à des agences de l'ONU et à des ONG. Hein. C'est donc une sorte de...
Pour vous donner une idée, l'USAID, c'est une partie de l'APD, de l'aide au développement public américaine. L'aide publique au développement américaine, en 2023, c'était 62 milliards de dollars. Donc, une partie gérée directement par USAID. L'aide humanitaire en tant que telle, bilatérale américaine, c'était 12 milliards de dollars. La contribution des États-Unis aux fonds multilatéraux, c'est-à-dire aux agences de l'ONU, à des fonds sur le climat, c'était 10 milliards de dollars par an. Sur cette part-là, il y a une part soit dans l'aide bilatérale directe des États-Unis qui finance directement des ONG, donc c'est-à-dire des contrats, par exemple, sur plusieurs années, souvent de plusieurs dizaines de millions d'euros qui étaient captés par des ONG humanitaires internationales, françaises ou pas. Et il y a une part des fonds multilatéraux, par exemple dans les agences de l'ONU, l'agence de l'ONU qui gère les affaires humanitaires, qui étaient elles aussi redistribuées à des ONG. On le rappelle souvent, mais les ONG, en particulier humanitaires, sont souvent les ONG du dernier kilomètre, c'est-à-dire les ONG qui sont là où les autres ne sont pas. Et donc effectivement, cette suspension de l'aide va avoir des effets très directs sur toute cette chaîne de l'aide qui, au bout du bout, va venir affecter les populations les plus dans le besoin.
Marc Semo.
Oui, on a entendu Vladimir Poutine se féliciter de cette suppression de l'USAID en disant que c'était un instrument d'ingérence dans les affaires d'autres pays. Et alors, est-ce que réellement USAID, au-delà de l'aspect aide au développement stricto sensu, a contribué à la promotion de la démocratie, y compris à encourager, au niveau des ONG et autres, les mouvements de résistance de la société civile, voire des révolutions de couleur.
François Grunewald. Alors,
c'est évident que USAID était un outil de la politique américaine. C'était l'USAID qui finançait les camps de réfugiés au Honduras, qui soutenait les camps de réfugiés au Cambodge et au Laos. Enfin, donc c'est vrai que c'était un outil de la politique américaine pendant la guerre froide. Et c'est vrai que c'est un outil de promotion d'un certain nombre d'idées libérales au sens social, de démocratie, d'équité, d'égalité homme-femme, etc., qui sont évidemment des aberrations et pour Trump et pour Poutine. Donc là-dessus, c'est évident que soutenir les réseaux de femmes en Afghanistan, soutenir les mouvements des droits de l'homme dans plein de pays, sur lesquels il y avait des gros programmes de USAID, fait partie des aberrations. Il y avait un des éléments que je ne sais pas trop, c'est il y a un autre outil très important de la politique américaine qui est le Bureau pour la population, les réfugiés et les personnes déplacées, donc qui lui dépend directement du State Department. Donc qui n'était pas dans USAID, mais qui était avant même Rubio, qui était déjà attaché, et qui était un acteur très important, puisque c'était eux qui finançaient les programmes du Haut Commissariat aux réfugiés, et toute une série de choses. Donc je ne sais pas ça comment ça va évoluer. Ce qui est clair, c'est que on se retrouve devant d'abord des accusations de mauvaise gestion, qui sont complètement fausses. Moi j'ai travaillé sur pas mal de recherches européen, américain sur l'aide transatlantique, dans lequel on regardait l'aide alimentaire, l'aide à la sortie de crise, l'aide humanitaire, et on voyait tous les mécanismes américains de gestion de l'aide qui étaient hyper rigoureux, et y compris même très lourds. C'est-à-dire que quand une ONG reçoit de l'argent de USAID, la mécanique d'abord d'audit préalable pour savoir si on est capable de bien gérer, c'est quelque chose de très lourd. La mécanique d'écriture de projet avec des lignes, etc., c'est quelque chose de très lourd. Et la mécanique de contrôle par USAID de ce qui est fait, c'est des choses très lourdes. Donc,
trop lourdes à vous entendre.
Dans les débats qu'on a avec USAID et avec l'Union européenne, etc., on dit faites attention de pas trop alourdir vos mécanismes. Mais c'est vrai que plus l'aide est importante, plus potentiellement l'aide est suspecte de malversations, etc., plus les agences qui la mettent en place, on a la même chose avec l'AFD en France, on a la même chose avec les mécanismes européens, mettent en place des mécanismes de contrôle. Plus on a d'argent, plus il faut contrôler, parce que plus le risque d'accusation de malversation réelle ou fausse est important. Voilà.
Vous le disiez l'un et l'autre, pardon, que l'USAID a marché main dans la main à sa création dans les années 60 avec la politique étrangère américaine, avec ce qu'on a appelé ensuite le soft power, et qu'il s'agissait de défendre un modèle et un certain nombre de valeurs que vous avez rappelées. Comment les choses se dessinent aujourd'hui quand Marco Rubio dit « nous devons aligner l'aide internationale sur les intérêts américains » Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette différence entre la défense d'un modèle et de grandes valeurs et celle d'intérêts? Quels sont ces intérêts? Ce sont des intérêts stratégiques, militaires, sonnants et trébuchants.
En fait, alors il faut rappeler quand même que l'aide publique au développement, la majeure partie de l'aide publique au développement, c'est du prêt entre États. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit la France, les États-Unis, l'Union européenne, prêtent de l'argent, souvent à des taux préférentiels, à des pays qui n'ont pas les moyens de s'endetter pour leur budget sur les marchés internationaux. Donc ça veut dire qu'une bonne partie de l'aide vise avant tout à permettre derrière de, pourquoi pas, gagner des marchés particuliers. Dans les années 90, il y avait un concept qu'on appelait l'aide liée, c'est-à-dire que la France en particulier, mais d'autres, prêtaient de l'argent à un État, imaginons le Maroc, et puis en contrepartie de ce prêt, par exemple sur du financement d'infrastructures, on obligeait le Maroc à prendre une entreprise française pour construire l'infrastructure. Donc c'était aussi un levier d'influence économique, quoi, et de permettre à nos entreprises de gagner des parts de marché. Donc très certainement, de ce qui se dessine quand on parle d'intérêt américain, c'est que très certainement l'USAID et une part non négligeable de l'aide publique américaine, en fait, va plutôt être réorientée vers des programmes de coopération économique qui permettront très certainement à des entreprises américaines de gagner en part de marché. C'est plutôt vers ça vers quoi on se dirige, et que très certainement un certain nombre d'activités qui en fait sont pas rentables, je vais le dire comme ça, mais l'aide humanitaire, elle est pas très rentable. Il y a pas grand monde pour en parler. Il y a pas beaucoup d'autres organisations qui sont capables de financer l'aide humanitaire. En fait, très certainement, c'est des programmes qui vont disparaître. Et d'ailleurs, sur votre question précédente, il se trouve qu'entre les deux mandats de Donald Trump, USAID, par exemple, avait renforcé, assez marqué par ce qui s'était passé au Capitole à la fin du premier mandat de Trump, avait effectivement renforcé ses programmes visant à soutenir des pratiques démocratiques dans les pays d'intervention. Ça, c'est des choses qui vont, a priori, disparaître.
Vous dites que c'est un modèle qui n'est pas rentable, mais il y a des circuits économiques qui fonctionnent, qui naissent et qui prospèrent aussi grâce à l'aide internationale, et y compris aux États-Unis, François Grunewald, où une partie de l'aide qui est envoyée, elle est achetée à des agriculteurs américains, donc il y a potentiellement aussi des conséquences négatives pour le fameux contribuable américain au nom duquel on fait ces gels et ces coupes aujourd'hui.
30% de l'aide américaine, c'est de l'aide alimentaire et c'est de l'aide achetée aux agriculteurs américains. Donc d'un seul coup, ça va faire un choc. Je ne sais pas comment le programme alimentaire mondial voit ça, sur lequel la patronne est une américaine d'ailleurs, la femme de McCain. Voilà. Comment est-ce que ça va jouer? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un enjeu important. Mais l'autre élément qui me semble un petit peu dramatique, c'est qu'en fait, cette attaque qu'il y a sur USAID, c'est peut-être que le début d'un certain nombre d'autres attaques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la FIMA, donc l'agence américaine, la protection civile fédérale américaine, qui est aussi dans l'écran radar. Et d'un seul coup, on va s'apercevoir que toute une série de mécanismes qui contribuent soit à l'international, soit à l'intérieur des États-Unis à rendre quand même les États-Unis plus sûrs, sont en train d'être affaiblis. En 2008, j'étais donc juste après l'élection de Obama. J'étais dans un colloque à Washington, à Georgetown, et il y avait donc, dans les discussions, il y avait qu'est-ce qui fait que l'aide humanitaire et l'aide au développement peuvent contribuer à l'image des États-Unis. Et je le rappelais, rappelez-vous, tous les discours de Ben Laden avant le 11 septembre se terminaient par une critique des États-Unis et une critique de la non-prise en compte de la problématique de la Palestine. Tous ces discours. Et là, avec ce qui est en train de se passer, l'image des États-Unis va s'affaiblir parce que ça sera plus une image généreuse comme Obama et Biden ont essayé de faire, mais ça sera une image greedy, comme on dit, une image d'un État aigri et avare. Et ce que Trump est en train de dire sur Gaza, etc., va contribuer à encore augmenter les aides. Donc je pense que ces dernières décisions, aussi bien sur Gaza que sur USAID, vont rendre l'Amérique beaucoup moins sûre. Moi, il y a des ambassades américaines où j'aimerais pas être en poste maintenant, quoi.
Marc Semo.
Oui, l'aide américaine de développement via l'USAID notamment, spécialement, c'est 40% à peu près de l'aide au développement dans le monde. Dans cette situation, qui peut suppléer? Parce que les Européens n'ont... assez de moyens.
Je rappelle, en 2023, l'aide au développement, pour vos auditeurs ou auditrices, pour que les gens aient en tête, donc l'aide publique au développement, c'est-à-dire ce que les États riches, enrichis, contribuent en termes de développement, c'est 213 milliards de dollars dans le monde. En 2023, les États-Unis, c'était 62 milliards, mais en fait, si on prend l'Union européenne et tous ses États membres, alors c'est pas un État, mais si on cumule, c'est plus de 100 milliards de dollars. Donc dans le top 5, il y a toujours eu l'Allemagne en 2023, c'était 33 milliards de dollars, le Japon, c'était 20 milliards, la Grande-Bretagne, 17, la France, 14. Donc, effectivement, il y avait de toute façon, jusqu'en 2023, il y avait un peu une trajectoire d'augmentation de l'aide au développement qui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est assez stoppé et on le voit aujourd'hui en France, par exemple, il y a une baisse drastique de l'aide au développement prévue sur le budget 2025. Donc, effectivement, en fait, le risque, c'est que, je le redis, mais l'aide au développement va continuer, mais très certainement qu'elle va plutôt s'orienter vers une aide qui est rentable, c'est-à-dire plutôt des prêts et qui vont de fait plutôt favoriser des pays qui sont solvables. Je le rappelle, par exemple, si on prend la France a une liste de 19 pays prioritaires de l'aide, qui sont des pays que l'OCDE considère comme les moins avancés, le Burkina Faso, le Mali, etc. Quand on regarde par an les pays qui reçoivent le plus d'aide de la France, aucun ne fait partie des 19 pays prioritaires de l'aide. Parce qu'en fait, la France, comme d'autres, fonctionne principalement sur son aide au développement par des formes de prêts. Et donc, ce faisant, elle oriente plutôt ses prêts vers des pays qui ont les moyens de les rembourser, donc des pays solvables. Donc en fait, le risque, très certainement, avec ces coupes majeures, que ce soit au niveau de l'USAID, mais aussi dans un certain nombre de pays, la Suède qui avait beaucoup porté son aide au développement l'a diminuée depuis un an ou deux. La Grande-Bretagne, même si elle a repassé dans un camp progressiste, n'augmente pas particulièrement son aide au développement. On va voir ce qui va se passer en Allemagne. En fait, ce qui va se passer, c'est que les pays qui sont les plus vulnérables, d'autant plus au regard du changement climatique au tropique, on n'a pas beaucoup parlé, mais enfin un peu en début d'émission, ce sont ces pays-là qui vont de toute façon être les plus confrontés aux coupes dans l'aide au développement. Un certain nombre d'autres pays continueront à recevoir de l'aide. Voilà. Et puis par ailleurs, je rappelle que il y a d'autres formes d'aide internationale, il y a d'autres mécanisme d'aide internationale. La Chine, par exemple, ne contribue pas à l'aide publique au développement, mais elle a des formes particulières d'investissement dans un certain nombre de pays. Si on regarde la philanthropie privée, qui fait partie, par exemple, des pistes souvent avancées pour remplacer les coupes des États, en 2023, la philanthropie privée, alors c'est plutôt les très très grandes fondations internationales, c'était 11 milliards par an, dont 220 millions dédiés à l'aide humanitaire. Donc en fait, on est quand même sur des montants qui n'ont rien à voir. Si on regarde la coopération sud-sud, c'est des pays comme le Mexique ou le Brésil qui aident d'autres pays du sud global, on est sur 17-18 milliards par an. Et si on regarde les investissements privés au développement, qui sont des formes d'investissement par des entreprises qui viennent compléter des formes de dons ou de prêts de l'aide publique au développement, on est sur 70 milliards d'euros par an. Donc en fait, il n'y a aucun autre acteur, je veux dire comme ça, si les États n'investissent pas ou ne sont pas guides d'investissements importants dans l'aide publique au développement, il n'y aura aucun autre acteur pour prendre la place. Et donc ça veut dire qu'un certain nombre de personnes vulnérables vont rencontrer de plus en plus de vulnérabilité dans les années à venir.
Avec des conséquences à terme qui sont difficiles à imaginer, mais qu'on ne peut s'empêcher d'essayer de commencer à comprendre. On prend la question de la santé, par exemple, dans laquelle l'USAID était très active, les campagnes de vaccination. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes pour les malades du sida, pour le paludisme notamment. Vous le disiez, on est sur à la fois des territoires et des problématiques qui ne sont pas rentables par définition. Est-ce qu'à terme, on peut aussi se poser des questions en termes de santé mondiale, de répercussions, du fait qu'une population entière s'appauvrisse en santé notamment? Comment est-ce qu'on commence à réfléchir à ça, François Grunewald?
Dans les discussions qu'il y avait eu avec le CDC, donc le Center for Disease Control américain, au moment où Ebola commençait à émerger en Afrique de l'Ouest, donc début 2015, il y avait une observation et le CDC s'est mobilisé à partir du moment où il y a eu le premier cas d'Ebola qui est arrivé aux États-Unis. Pareil pour l'aide britannique et l'aide française s'est mobilisée à partir du moment où il y a eu des risques que ça contamine, que ça passe de la Guinée au Mali, où il y avait les forces françaises déployées. Donc, c'est vrai que sur ces questions-là, nos pays sont potentiellement toujours un peu réactifs, mais les leçons avaient été tirées, et en disant il faut renforcer les mécanismes de gestion de ces maladies émergentes. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, travailler sur Ebola, il y avait 25 personnes à l'OMS. Quand la grande crise a démarré en 2015, il n'y avait plus que 4 personnes. Et maintenant, c'est remonté. Et notamment grâce à des financements américains. Donc voilà, il y a une prise en compte que dans un monde dans lequel, à cause des transports, à cause de la mobilité, etc., les maladies sont de plus en plus mobiles elles-mêmes et donc peuvent toucher des tas de zones, il y avait une prise de conscience autour de ça. Et l'OMS, qui avait été très critiquée pour sa gestion d'Ebola, avait pris des mesures pour mieux se mobiliser sur ces risques de maladies émergentes qui ne vont que se multiplier. Donc là, il y a un vrai enjeu. L'autre élément, c'est que on nous parle partout de migration. La migration, elle est liée à la pauvreté et au conflit. Si on arrête de se battre contre la pauvreté dans les pays, si on arrête d'intervenir sur les populations qui sont vulnérabilisées par les conflits et les catastrophes, ils n'auront plus de choix. Et donc, n'ayant plus de choix, ils vont augmenter les flux migratoires, etc. Et tous les débats qui disent il faut travailler sur les racines des causes de déplacement, il faut travailler sur les mécanismes qui permettront aux gens de vivre décemment dans leur pays, parce que c'est un des éléments de possible réduction de toutes ces mobilités, tout ça se cassera la figure. Alors, donc là le flot sera mondial. Et là, on n'arrête pas la mer. Les politiques de murs seront très vite inefficaces.
Mais alors, question naïve peut-être, mais quand on connaît l'obsession de la question migratoire dans l'administration Trump, comment expliquer que cet élément ne soit pas pris en compte, c'est-à-dire la conséquence d'un arrêt à long terme des aides sur l'augmentation des flux migratoires? C'est un raisonnement plutôt rationnel. Comment expliquer qu'il ne soit pas à ce point pas pris en compte quand on sait encore une fois la fixation, l'importance qui est faite sur la question migratoire aux États-Unis?
Alors moi j'ai très peur qu'une grande partie des décisions soient prises de façon complètement irrationnelle. Les accusations lancées sur USAID par Elon Musk sont des accusations complètement irrationnelles quand on connaît comment fonctionnent ces administrations américaines hyper contrôlées. Moi, lors d'une de mes missions, j'ai rencontré les gens ce qu'on appelle le GAO, c'est le bureau de l'auditeur général du gouvernement américain. Leurs mécanismes de contrôle, de suivi sont d'une force plus forte que notre Cour des comptes chez nous, hein. Et à l'intérieur de la mécanique de USAID, il y a un bureau spécial de contrôle des comptes qui est une mini cour d'audit interne. Et donc, quand on dit que ces gens-là font n'importe quoi, etc. Et là, Elon Musk qui envoie sa bande de gamins dont l'épaisseur de vie c'est moins qu'une cigarette, mais qui sont des geeks et qui vont tout contrôler et qui ont accès à des informations confidentielles, d'adresses, de ce qui serait chez nous impossible. Et donc on se trouve avec une mécanique de guerre qui a été lancée, à mon avis de façon très irrationnelle, ou d'une rationalité que j'aime pas du tout, ce qui est possible. Je sais pas comment les États-Unis en interne, mais aussi à l'international, se sortiront de cette situation.
Vous écoutez Culture Monde, François Grunewald et Vincent Pradier sont nos invités pour parler de l'avenir du système de solidarité internationale après l'annonce du gel des financements de l'agence américaine USAID. Comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs Cartooning for Peace. Notre sujet, vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé du dessinateur français Hector. C'est un échange entre d'un côté le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Tesla, X, SpaceX, désormais à la tête, on en parlait, du département chargé des coupes budgétaires dans l'État fédéral, et un enfant africain. Un dialogue disproportionné à tous égards puisque l'enfant est dessiné tout petit et qu'il ne parle même pas. On le voit pieds nus tendre une main tandis qu'une larme coule sur sa joue. En face, Elon Musk, en costume, apparaît 5 fois plus grand. « Arrête de me demander de te décrocher la Lune, c'est Mars qui m'intéresse », dit-il, d'un air sentencieux et agacé, référence à ses projets de colonisation de la planète Mars, des projets extrêmement coûteux qui contrastent avec l'assèchement des fonds pour l'aide humanitaire décrété cette semaine. Un dessin à découvrir sur notre compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction peut-être de nos invités, Vincent Pradier, à cette caricature?
Je trouve qu'elle est assez révélatrice. De ce que disait François, c'est-à-dire du fond de la pensée de Donald Trump et de ses équipes sur l'intérêt, le faible intérêt qu'il a pour les enjeux de vulnérabilité, de lutte contre le réchauffement climatique dans les pays appauvris et de comment est-ce qu'il souhaite orienter sa politique étrangère prioritairement vers les intérêts nationaux. Donc je trouve qu'elle est c'est très bien fait.
Et puis, vous dites vers les intérêts nationaux, et puis il y a aussi la question des alliés des États-Unis, puisque dans les exemptions, on a vu qu'Israël était exempté de ces gels, l'Égypte également, qui est considérée comme un État stratégique, mais pas l'Ukraine. Et c'est peut-être intéressant de voir, en lien avec ce que vous disiez, que le président Volodymyr Zelensky a proposé cette semaine aux Américains d'investir dans les terres rares en Ukraine. Est-ce que c'est une manière, qu'est-ce que ça augure de la de la contractualisation de l'aide qui s'augure, qui augure peut-être du nouveau paysage, du nouveau fonctionnement de la solidarité internationale, François Grunewald.
C'est évidemment très inquiétant. Je pense que le président Zelensky est quelqu'un de très malin. Il a compris que pour obtenir de l'aide et continuer à garder de l'aide militaire et humanitaire et d'appui à l'économie ukrainienne, il fallait qu'il rentre dans le jeu de Donald Trump, mais moi mes contacts en Ukraine disent on est forcé, hein, quand on a le couteau sous la gorge on n'a pas trop le choix et donc les Ukrainiens sont obligés d'essayer de jouer un peu le jeu qui leur est imposé pour ne pas tomber dans la défaite face à la Russie et au bourreau de Poutine. Mais autour de ça je pense qu'il y a un autre élément qui est si le monde n'est fait que de transactions économiques qui sont toujours dans des dynamiques de domination, je pense que le monde ira de plus en plus mal. Je pense que l'enjeu de la générosité, les Peace Corps américains, c'était un mouvement incroyable. Alors, c'est de jeunes Américains qui partaient en Afrique, en Asie, découvrir le monde. Et une grande partie des cadres de USAID ont été Peace Corps, puis ils ont découvert la générosité dans les villages du Mali ou du Bangladesh. Et comme des tas de jeunes Français qui ont fait leur coopération, qui ont été volontaires du Progrès, ça nous a marqué pour la vie. Et donc, ces gens-là, j'en avais encore au téléphone hier, ils pleurent. Ils disent l'image de l'Amérique, qui est une image quand même compliquée souvent, elle est en train de se prendre une claque comme elle n'en s'est jamais pris.
Ce qui est paradoxal, François Grunewald, c'est que ces décisions extrêmement brutales et à effet immédiat, elles arrivent en parallèle d'un mouvement de fond qui a commencé depuis une dizaine d'années, Vincent Pradier, de réflexion sur la désoccidentalisation de l'aide internationale et que cette aide aujourd'hui que tout le monde pleure parce que, encore une fois, les arrêts sont extrêmement brutaux, elle n'était pas exempte de critiques sur tout un tas de mécanismes très ascendants. Il y a une critique aussi coloniale qui existe et dont on n'a plus pas le temps de débattre, mais un petit mot Vincent Pradier pour nous rappeler qu'il y a un débat qui existe en parallèle sur la désoccidentalisation de l'aide.
Il y a un agenda sur l'aide humanitaire qu'on appelle de localisation de l'aide, mais qui rejoint des questionnements plus globaux sur comment est-ce que l'aide internationale, la façon dont elle fonctionne, par exemple, ce rôle prépondérant que peuvent continuer à avoir les ONG internationales plutôt occidentales dans l'accès aux fonds et le fait qu'elles sont finalement dans un rapport de domination avec leurs homologues du Sud global et porteuses de certaines formes de perpétuation de cette histoire coloniale, bien sûr, ça anime le secteur. Ce qui est sûr, c'est qu'en coupant l'aide internationale, en fait, c'est des moyens dont on avait besoin pour justement réfléchir à des mécanismes un peu différents qui vont disparaître. Et donc, en fait, on risque de perpétuer ou les ONG risquent de continuer à être dans cette logique-là, à leur corps défendant. Et donc, cette aide internationale n'augure pas de... Enfin, ces coupes n'augurent pas de quelque chose de très bon. Je précise juste deux chiffres quand même pour compléter ce que disait François. Je rappelle qu'en 2023, on parle beaucoup de milliards, de centaines de milliards d'euros pour l'aide humanitaire. Je rappelle qu'en 2023, les bénéfices du secteur bancaire international, c'était 1000 milliards de dollars par an. Quand on regarde les dépenses cumulées de tous les États sur l'armée, sur les dépenses militaires, c'est 3000 milliards de dollars par an. Donc en fait, ça veut dire, comme dit François, c'est qu'en fait, on a une dynamique de fond qui transforme un peu la façon dont le monde va fonctionner et dont la façon dont il fonctionnait sur les années précédentes. Et il me semble que dans cette dynamique-là, l'Europe et la France en particulier a peut-être quelque chose à dire et à jouer pour défendre un modèle particulier, quoi.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces réflexions qu'on va continuer à suivre. François Grunewald, je rappelle, chercheur senior et président honoraire veille et anticipation du groupe ERD, un think tank spécialisé sur les questions de solidarité internationale. Merci Vincent Pradier, je rappelle, doctorant à l'IAE de l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes encore en thèse actuellement. Merci beaucoup Marc Sémo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée à un portrait de l'Allemagne qui s'apprête à voter pour les élections fédérales fin février. Il sera question de la classe politique à l'épreuve de la montée de l'AFD, des fractures sociales et territoriales, de l'avenir de la transition énergétique et de celui encore plus incertain de sa politique étrangère. Et dans un instant, les midis de culture.